Salut, c'est le Palchi et tu écoutes Fréquence Paris Pluriel. Voilà notre toute première émission avec un premier épisode qu'on a décidé d'appeler « Des atomes et des keufs ». Dans cette émission, qui a lieu chaque premier jeudi du mois, nous allons parler d'écologie sous plein de formes différentes. Documentaires sonores, rencontres, musique, débats en direct et autres joies du son. Nous gravitons dans le milieu écologiste et on s'intéresse à plein de sujets qui ont comme base commune la lutte contre les dominations, sur les corps, la terre, les esprits. Pendant cette émission, nous souhaitons particulièrement parler des luttes antinucléaires, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui disparaît derrière le mouvement écolo actuel, qui oublie peut-être un peu trop d'où il vient. Ouais, parce qu'aujourd'hui, la voix des pro-nucléaires domine l'espace médiatique et politique en France. Que ce soit via les canaux de communication d'EDF, d'Orano ou de Landra, ceux de certains scientifiques à la mode parce que engagés pour l'écologie, ou sur les chaînes de youtubeurs connus. L'énergie nucléaire est défendue comme étant une énergie écologique, dont la production rejette peu d'émissions de gaz à effet de serre, et donc comme une énergie d'avenir. Face à eux, les mobilisations antinucléaires ont du mal à se faire entendre, alors même que l'année 2021 va s'avérer cruciale pour le développement ou non du nucléaire en France. Présentation de nouveaux projets d'EPR, décision quant à la demande d'utilité publique de Landra pour étendre ses achats de terrain à Bure. Il devient urgent de faire entendre celles et ceux qui s'opposent à l'expansion de cette filière. Parce que le nucléaire perpétue le colonialisme, que le nucléaire est socialement néfaste, que le nucléaire est lié à l'industrie militaire, que le nucléaire est corrompu, que le nucléaire est antidémocratique, que le nucléaire criminalise ses opposantes, que le nucléaire nuit aux vivants, que le nucléaire est une menace permanente d'accidents et de fuites, que le nucléaire présente des risques accrus dans un contexte d'instabilité sociétale, que le nucléaire empêche une politique de sobriété et d'efficacité énergétique, que le nucléaire ne résistera pas au changement climatique, que le nucléaire empêche d'investir dans la transition énergétique en France. Nous souhaitons audibiliser les enjeux actuels du nucléaire, faire entendre des voix de personnes qui ont lutté ou luttent encore contre le nucléaire et les aberrations qu'il engendre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez entendre deux podcasts sur la mémoire des luttes antinucléaires dans les années 70. Les histoires de personnes qui se battent contre des projets absurdement tarés et qui racontent, maugrés, se souviennent, s'enthousiasment. Vous allez aussi entendre des impros et du rap. Nos textes parlent des colères qui nous traversent et de nos révoltes contre la violence des flics, la surveillance généralisée, la distance que le Covid instaure entre les gens et le prétexte qu'il constitue pour nous empêcher de nous organiser. Ils ne parlent pas tous directement d'écologie, mais comme on considère que la destruction des écosystèmes, les oppressions et le néolibéralisme autoritaire sont intrinsèquement liés, on s'est dit que ces textes avaient leur place ici. Pour nous, c'est impossible de parler d'écologie sans avoir un propos anticapitaliste, antisécuritaire, antinucléaire, queer et féministe. Bref, sans faire de lien entre toutes les luttes. On veut dire notre rage et qu'elle dessine les contours de possibles à inventer ensemble.
Petit matin d'automne, la bruine enveloppe nos songes. Tout se fige soudainement dans ce monde qui nous ronge. Des lampadaires dystopiques dessinent le bitume d'un collège. Des ombres errantes comme des enclumes tentent de s'extraire du sommeil. C'est l'heure du cours de maths, mais prenez garde, Covid guette. Qu'elle s'aligne bien docilement, mais ça va de soi à plus d'un mètre. Dans la brume fumante, et elles sont maintenant des étrangères, se regardant tremblantes, et ne se parlant que sur Messenger. maigre silhouette d'asphalte, statue figée et dissolue, sans rechigner, elle se protège de cet ennemi inconnu. À demi-visage, demi-conscience, on obéit pour être gentil. Tu as de beaux yeux et heureusement, car je ne vois pas quand tu souris. Ce matin-là, sans préavis, les murs se sont mis à chanter. Lettres et dessins leur ont crié qu'elles feraient mieux de se révolter. En trois coups de colle, ils recouvraient toutes les surfaces en bitumée, se répandant comme des comètes, filant dans l'air et dans leur tête. Soyez sauvages, mangez la rage, car ils détruisent nos paysages. S'ils nous surveillent, on les sabote, s'ils nous matraquent, on se révolte. Les lettres valsent dans les cieux, les murs éteints, celles de tendresse. La route se change en une clairière, les yeux se chargent de lumière. Petit matin d'automne, la bruine s'est effacée. Désormais, tout est possible, puisque les murs savent dessiner. Et sous le regard saoulé des surveillants qui les surveillent, les ados esselés s'élancent enfin pour s'enlacer. Ces merveilles.
Mémoire de la lutte contre la centrale Superphénix, épisode 1, une centrale dans mon champ.
Cet été, sur mon chemin, j'ai rencontré le monde du nucléaire. Moi qui partais de rien, j'ai essayé d'y voir un peu plus clair. J'ai poussé la porte d'un monde un peu sordide, au passé malheureux, qui promet un avenir aride, plus irradié que radieux. Je suis arrivé les mains dans les poches, dans une campagne agonisante, au milieu d'un truc qui cloche, quatre grosses cheminées crachantes. Symbole d'un monde qui chaque jour s'effiloche, toujours plus pourriture effrayante. Alors dans ce champ, comme au Cinoche, j'ai batté cette nature plus rassurante. La plantée dans l'herbe cramée, je me suis posé 10 000 questions sur les canons que surplombaient et sur l'histoire des environs. Je te parle de centrales nucléaires qui détonnent dans les collines. En plein milieu de l'Isère, elles semblent faire partie de la routine. Pourtant cet été, j'ai découvert des histoires franchement pas clean. Un passé chargé de misère, loin de ce qu'on nous baratine. J'ai rencontré des anciens en colère qui ont lutté dans le brouillard. Des vieux hommes aux yeux clairs qui habitent au milieu de ce foutoir. Ils racontent leur monde d'hier en m'offrant des verres d'eau. Moi j'ai tiré de mes affaires un stylo noir et un micro. Ils nous ouvrent leur passé depuis le fond de leur accoudoir. Des histoires de luttes passées, Superphénix, Buget, même passé noir. Voilà une trace des condamnés sur une nouvelle carte mémoire. Dans cette campagne toute souillée, y elles opposent une autre histoire.
La première année où on a commencé à se poser des questions, c'est en 73. Mon père voit des gens dans son champ en train de faire des sondages. Puis il va les interroger et puis il me dit bah « Non, ça ne vous regarde pas. » Alors mon père, heureusement, est quelqu'un de plutôt pacifique, sinon je pense qu'un autre leur aurait mis sur la figure. Il a dit « Bon, très bien. » Puis il est allé se renseigner dans tous les canaux qu'il a pu essayer de trouver pour voir ce que ça pouvait être. Et les canaux les plus fiables, ça a été des scientifiques indépendants. Qui lui ont dit assez vite qui lui ont dit, ben voilà ce qui se passe, il y a une centrale qui est prévue, c'est un modèle nouveau au plutonium. Plutonium, c'est quand même au départ pour faire des bombes, même si c'est pas prévu pour faire des bombes là, encore que le plutonium de couverture, au départ, était bien prévu pour alimenter des bombes, donc c'était pas complètement indépendant, enfin bref. Et donc à partir de ces années-là, il a commencé à faire des réunions d'information avec ses, en particulier ces deux personnes, une qui est décédée, une qui est toujours vivante, pour expliquer aux gens du coin, ben voilà, on vous dit ça, mais il y a d'autres façons de, on peut vous expliquer que c'est pas complètement ça qui pourrait se passer, on a une autre version à vous proposer. Et puis en même temps, il y a eu une première manifestation, alors en 74, c'est ça. En 74, on était une trentaine à peine sur le terrain, on avait enlevé les piquets de terrassement, et même, je me rappelle, une pancarte, c'était marqué « Centre réacteur numéro 3 », pour vous dire qu'ils avaient, ils voyaient grand. On les avait pris, on avait fait un peu de camp avec. Voilà. En 75, il y avait 250 personnes en face de, dans l'Ain, vers Rix, qui est un petit village un peu plus bas, là, enfin, voilà. Et puis là, il y avait 250 personnes, à peu près. J'avais très peu participé à celle-ci, parce que bon, ils font ça l'été, et nous les paysans l'été, un peu du boulot, donc voilà, on n'avait pas toujours le temps de faire ce qu'on voulait. Et puis, alors là, en 76, là, il y a eu plus de 5000 personnes, il y a eu déjà de la répression que j'ai vue de mes yeux, qui m'a profondément choqué, c'est-à-dire que il y avait un campement de manifestants qui étaient là, les CRS avaient fait un barrage, enfin, barré la route, mais les campeurs, en fait, les CRS voulaient déménager le camp, mais de façon militaire. Enfin voilà, moi j'ai vu une famille partir. Ça me rappelle à l'époque, si ça vous parle pas, mais une Ami 8 break, c'est une vieille bagnole, n'existe plus. Et les CRS à coups de crosse dans le pare-brise, les gamins derrière étaient terrorisés. Ils avaient leur couteaux de combat, ils lacéraient les tentes. Il y avait déjà des grenades offensives, mais miracle, il y a rien eu, il y a pas eu de mort. Des blessés, il y en a eu, mais pas extrêmement graves. Et puis moi, j'étais là-bas dessous, quand j'ai entendu claquer les grenades, j'étais là, c'était à 500-600 mètres, à travers champ, j'y suis allé. Heureusement, quand je suis arrivé, il y a un CRS qui m'a vu, il a voulu me massacrer, mais il y avait un conseiller municipal qui me connaissait. Il a dit non, il est avec nous. Puis comme il y avait le maire en écharpe avec les conseillers, là, les CRS, ils ont quand même pas osé taper dessus, mais ils ont quand même tiré des grenades sur les grenades, pas offensives, mais au moins lacrymogènes sur les pompiers qui arrivaient, parce qu'on était en 76, c'était la grande sécheresse. On s'est dit, mais ils vont foutre le feu avec ces conneries. Enfin, voilà. Pour vous dire le contexte, qui était déjà impressionnant. Et puis, alors là, en 77, là, ça a été le dérapage complet, puisque 60 000 personnes, donc 8 amis chalons tués, avec une grenade offensive, et puis deux blessés graves, enfin, un troisième. On peut pas l'oublier, mais c'était du côté des CRS, pas pour les risques du métier. Hein. Quand on manipule des armes de guerre, parfois, c'est son problème. Mais un Allemand et un Français, donc Michel Vengeant, Français, qui a eu pied arraché par une grenade offensive. Et l'Allemand, il a voulu rebalancer la grenade pour protéger ce qui était autour de lui, c'est la main qui a volé. Donc voilà un peu le bilan humain de cette manifestation. Et c'est vrai que ça a été un coup d'arrêt quand même important. Le gouvernement voulait faire ça, il voulait mater la contestation et mettre un coup d'arrêt, ce qu'il a en partie réussi. Donc ça, c'est pour faire très très court et pour dire un peu la façon globale dont ça s'est passé. Et moi là-dedans, comme je vous l'ai dit, en 76, là j'étais présent. Par contre, en 77, là j'étais armé, parce qu'à l'époque ça existait. Et pas volontaire, hein, enfin pas engagé, mais... comme tous les autres, et là, j'avais pas intérêt à me pointer à la manif, parce que si je me faisais ramasser, là, c'était la tôle. Quand t'es à l'armée, t'as pas le droit de manifester. Enfin, t'avais pas le droit. Ça n'a pas empêché que j'ai quand même bien suivi ce qui se passait, parce que bon, on écoutait la radio et tout, et puis malheureusement, quand il y en avait vital, là, dans la cour, voilà, j'étais là, et c'était un moment très dur. Très dur, parce qu'il y a, on vous amène un jeune, là, qui manifeste sur une civière, on nous dit, il est mort. Et puis là, il y a parce qu'ici c'est un centre secours qui était organisé. Et il y avait un médecin qui était là, un interne, un jeune interne, hein, qui était là pour assurer les soins et tout, il se penche vers Vital, il se relève, il a tout de suite compris. Et je l'ai vu, il s'est relevé, il est parti en hurlant au fond de la cour en disant « Si on m'amène un CRS blessé, je l'achève. » Ça, j'ai jamais oublié. Pour qu'un médecin dise ça, le gars, il en avait gros sur la patate. Donc voilà, on a vécu ce genre de choses. Et puis, 2 heures après, on entendait à la radio Vital Michelon mort d'une crise cardiaque. Alors qu'il savait très bien que c'était pas ça du tout. Puis après, il y a eu un procès, alors en 77, un procès justement par rapport à tout ça, mais ça a été une honte. Il faut voir, sur Internet, vous pouvez trouver des extraits de gens qui sont fait choper, des manifestants qui se sont fait attraper, et ça a été une honte pour la justice française. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même une grosse tache sur notre histoire.
C'est au début de cet après-midi à Cresmalville que tout a brusquement dégénéré. Le puissant dispositif policier mis en place autour de la future centrale atomique a été obligé d'intervenir pour refouler des commandos de manifestants casqués et armés de cocktails Molotov qui tentaient de franchir les barrages et de pénétrer dans la zone interdite. Les affrontements ont été si violents qu'il y a eu un mort du côté des manifestants et plus d'une centaine de blessés, dont 5 gendarmes mobiles grièvement atteints. Notre envoyé spécial, Daniel Duigou, et les caméras de TF1 étaient là au moment des affrontements les plus durs.
Tout de suite, je vous propose de regarder les images qu'avec l'équipe de TF1 nous avons pu filmer. Et tout d'abord, la tragédie. Alors que les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants se poursuivent, une équipe médicale avec un médecin va livrer en vain une bataille contre la mort. Pendant environ un quart d'heure, tout ce qui est possible sera fait. Bouche à bouche, perfusion, massage. Mais bientôt, il faudra reconnaître cruellement les faits. Ce manifestant de 31 ans, M. Michalon, qui habitait à Die dans la Drôme, a succombé à un arrêt cardiaque. L'autopsie, pratiquée peu de temps après, le confirmera. Mais revenons en arrière pour suivre le fil des événements. Il est 7 heures, alors que la pluie commence à tomber. Elle ne cessera d'ailleurs pratiquement pas toute la journée. Et quelques 18 à 20 000 manifestants quittent leurs 4 lieux de campement pour se diriger à pied, pour la plupart, vers le site interdit de Cresmalville. Plusieurs tentatives d'infiltration échouent. Il est 13 heures. Au moment même où notre journal commence, c'est un face-à-face, force de l'ordre, manifestants. Cela se passe près de la petite localité de Faverges, située à la bordure de la zone interdite. Les manifestants sont une dizaine de milliers afflués, mais surtout près de 2000 autres sont armés de casques et de bâtons. Ils prennent position. Par haut-parleur, la police précise que sur ordre du préfet, elle s'opposera à l'entrée des manifestants dans la zone interdite. Et comme réponse, c'est un jet de pierre. Plusieurs cocktails Molotov sont lancés. Une voiture prend feu et c'est l'affrontement très violent. Côté force de l'ordre, 5 blessés, dont 2 grièvement, et un policier aura la main arrachée par l'explosion, vous le voyez, d'une grenade offensive. 5 arrestations, 2 manifestants de nationalité allemande, grièvement blessés et hospitalisés, ont été inculpés. Côté manifestants, plus d'une centaine de blessés et malheureusement une mort. Dès que cette terrible nouvelle fut apprise, le gros des manifestants qui n'étaient pas venus pour se battre se replia, laissant quelques centaines d'autres, ceux-là casqués, stationnés à proximité des barrages de police. 17 heures, nous rencontrions un des responsables.
Plus tu avances, plus t'en prends dans la figure. Donc tu deviens, on peut dire qu'ils sont devenus quelque part des résistants. Et donc, en essayant de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui est prévu de faire là, bon, centrale nucléaire, oui, mais quoi, un surgénérateur, mais qu'est-ce que c'est un surgénérateur? Comme mon père est quelqu'un d'assez cartésien, enfin, il était assez cartésien, il a dit, ben, je veux comprendre ce qui se passe. Alors, à l'époque, je ne sais pas si vous avez entendu parler, maintenant, je ne sais plus si ça existe, une revue qui s'appelait Science et Vie. Il s'est complètement documenté avec ça. Il en était au point que quand quand les directeurs de la centrale, parce qu'il y a eu tout un épisode avec la fabrication d'électricité à partir de méthane, donc on avait une centrale ici qui fonctionnait avec du méthane et qui a fait l'électricité, et qui a été rentable, ce qui n'est pas le cas. C'est de côté. La plupart des directeurs, qui étaient pas des cons d'ailleurs la plupart, ils étaient interloqués par ça, ils venaient en visite à mon père. Ils étaient étonnés de la connaissance qu'il avait du principe du surgénérateur. Ah oui, ça les a beaucoup surpris, la plupart. Et parce qu'en fait, pour faire court, donc mon père a toujours dit, c'est très bien d'être contre quelque chose, mais il faut prouver qu'il y a autre chose. Parce qu'être contre, c'est facile. Mais proposer autre chose, c'est beaucoup plus difficile. Donc, moi, je vais faire de l'énergie autrement. Alors, l'avantage qu'il a eu, c'est qu'il en avait entendu parler quand il était plus jeune, parce que mon grand-père paternel avait travaillé un petit peu le dossier. Il a trouvé des papiers, dans les papiers de mon grand-père, des petits dossiers faits sur la méthanisation, avec les moyens de l'époque. Sauf que lui, il a été plus loin avec des moyens plus modernes. Et il a mis en place une installation qui a fonctionné de 1980 à 2000 pendant 20 ans. Et qui a fabriqué l'électricité qui est partie sur le réseau à côté d'un truc qui a jamais marché. Ça, c'était sa fierté. C'était sa vengeance. C'est une machine à vapeur, Super Phoenix, en fait. Ça a le rendement d'une machine à vapeur. C'était le cycle de Carnot, c'est à peu près 30%. Pourquoi ? Parce qu'on part d'une source chaude, et après, on va faire tourner un alternateur à partir d'un système de transfert de calories, et de faire ça dans un détendeur, et on obtient de l'énergie comme ça. La machine à vapeur, c'est ça. Simplement, on a remplacé le charbon par du plutonium, et la combustion du charbon par la fission du plutonium. Effectivement, avec des masses très très faibles, on obtient une énergie assez importante, très difficile d'ailleurs à maîtriser. Mais là où les technocrates, ils ont fait très très fort, c'est qu'ils ont réussi, enfin ils ont trouvé que pour récupérer la chaleur produite par la fission et la transmettre pour pouvoir la récupérer et la détendre pour pouvoir faire tourner la turbine, les turbines, et donc faire tourner des gros alternateurs, il fallait un liquide caloporteur. Et ce liquide caloporteur, c'est-à-dire le liquide qui transporte la chaleur, c'est du sodium, liquide. Si tu veux, quand tu prends le plutonium d'un côté et le sodium liquide de l'autre, c'est à peu près les produits les plus dangereux que l'homme n'ait jamais inventé, et tu les mets l'un dans l'autre, dans l'installation. Faut être technocrate pour faire ça. Comme disait Coluche, un philosophe bien connu, les technocrates, tu leur donnes le Sahara, et puis 5 ans après, ils vont acheter du sable ailleurs. Enfin, je sais pas si tu vois, ça montre un peu le raisonnement de gens qui sont complètement à côté de... C'est pas du tout un raisonnement scientifique. Un scientifique, il va faire une expérience, il va te dire, ah oui, là, cette fois-ci, ça a marché. On va recommencer pour voir si ça... Là, les technocrates, ils construisent Phoenix, 250 mégawatts, ça marche pendant 1 an et demi, 2 ans, paf, allez, on construit Super Phoenix, 3 fois plus gros. Et puis là, c'était la grosse cagade. Le sodium, ils l'ont donc, qui est faiblement radioactif, pas trop, parce qu'il n'a pas trop servi, ils l'ont coulé dans du béton, et pour l'instant, ils le stockent sur le site. C'est vrai que là, bon, c'est pas complètement déconnant, puisque une fois que c'est coulé, c'est stable, il peut plus réagir avec l'eau, il peut plus réagir avec l'air. Voilà, donc c'est une façon. Bon, par contre, ce qu'on laisse à nos enfants, aux petits-enfants, c'est pas sympa, mais c'est des merdes, on va laisser des plus graves que ça, quoi, si je peux faire des comparaisons. Mais voilà comment on a réglé le problème des déchets de Super Phoenix. T'as deux cœurs qui sont dans une piscine pas sécurisée, et t'as ces blocs de béton qu'on va laisser aux générations futures pendant je sais pas combien de temps, parce que pour l'instant, on sait pas les traiter autrement, quoi. Je me rappelle trop les différents directeurs de la centrale auxquels mon père disait « Mais messieurs, vous faites quoi des déchets ?» C'était ça la question, généralement, sur laquelle il se plantait. On saura les traiter. Mais mon père insistait, vous savez les traiter ? Non, mais on saura, la technologie nous permettra de le faire.
Les forêts ont fermé, les parcs ont fermé, les rues ont fermé, la ville va fermer. Tant mieux, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde qui crève. J'arrivais les mains dans les poches et j'avance sur mon sentier de cailloux boueux, avec mon sac à dos de carton et mes questions dans la bouche. Je dors sur la paille des poètes et je voulais faire du monde un carnaval. J'ai cherché un autre monde, mais le secret est là, c'est qu'il n'y en a pas. Il y a simplement d'autres manières de vivre à l'intérieur. Les grands de ce monde veulent cadenasser les mots, amoindrir leur sens, diminuer leur portée. J'aime pas les monochromes, encore moins ceux de la pensée unique. Cet été, sur mon chemin, j'ai fait un pas de côté et je suis allée trouver de nouveaux récits. Écouter des histoires cachées sous les cailloux de béton et à l'ombre des centrales, pour essayer de comprendre là où j'ai atterri. Prendre d'assaut le château fort qu'est le discours officiel, l'histoire officielle, pour ensemble la déconstruire pierre par pierre et créer d'autres architectures. Proposer d'autres voies que celles des idiots qui veulent irradier le sol, d'autres voies que celles de leurs complices, ceux qui ont mis notre futur dans des valises pour l'échanger contre de l'argent sale et quelques chips. Le monde de ces couillons de luxe se casse la figure. Viens, on lui fait un croche-patte et on l'achève.
Mémoire de la lutte contre la centrale Super Phoenix, épisode 2, Daniel et Georges.
On rassemble de drôles de mots depuis nos cachettes secrètes, des balades et un micro pour capturer des cacahuètes, quelques sons et des échos, des vieilles histoires bien trop muettes. On cuisine une soupe de mots, prends une cuillère et tiens-toi prête. L'heure est venue de la récolte pour que mémoire ne soit muette. Quelques souvenirs de révolte, de manifs et de fêtes. Dans un monde un peu trop barge, trop d'humains ont la grosse tête. N'oublie pas l'histoire des marges qui se battent dans la tempête. Celle qui défie le réel, qui lui donne un goût de miel, rature les schémas de la norme et se laisse pousser des petites cornes. C'est la voix de militants que tu vas entendre dans un instant. Ils ont débarqué dans le budget, camp nucléaire, des tech projets, de belles vies pour voir grandir, un bricolage de pâte à fixe, centrale vide et sans avenir, la prétentieuse Super Phoenix. Habitant à 4000 mètres, le montre lui sous les fenêtres. Il s'oppose, envoie des lettres, s'organise, idiot ni maître.
Thank you.
sa place, ce temps pâle. Y a de la casse, on s'installe, il tabasse, on se cale. Il nous nasse tous, râle, mais ça se passe car vale. Il nous chasse des voiles, une farce bancale, pleine de crasse car vale. Et l'audace du scandale.
C'est l'histoire d'un micro qui se balade dans les collines du Bugey et qui rencontre des spécialités locales. De grands voyous, au teint blafard, repérables à des kilomètres à la ronde, qui font des magouilles depuis plus de 50 ans. Ensemble, ils forment une sorte de mafia foireuse. Insérés dans des affaires de troc, de matières venues de loin, ils prétendent avoir de l'énergie à revendre et provoquent des réactions en chaîne. Le premier, d'une élégance en béton, est le plus imposant. Un mastodonte robuste qui respire par quatre énormes narines avec un souffle lapidaire qui s'élève jusqu'aux nuages. Le bonhomme est bien décrépit. Il accuse plus de 50 années de service. Son teint gris anthracite trahit la crasse des années. Mais pour l'instant, il refuse de s'arrêter. Le deuxième brigand a une histoire un peu plus obscure. C'est un type qui fut considéré à sa naissance comme le fleuron de l'industrie nucléaire de notre chère France, mais ses plans foireux ont vrillé dès le départ. Et après avoir fait un boucan infernal, s'être cassé la figure un paquet de fois, avoir détruit des vies et des sols pour un temps indéfini, le brigand s'est planqué sous une coupole, essayant de se faire oublier. Il ne reste que sa carcasse, radioactive, bétonnée, et immergée dans une piscine froide.
Dans l'épisode précédent, on entendait les mots d'Yves François, un agriculteur céréalier qui était môme quand les travaux de construction de Superphénix ont démarré, juste sous ses fenêtres. Il raconte la rencontre entre le monde militant et sa famille, d'origine noble et bourgeoise. Il parle des violences policières, raconte la mort de Vital Michalon, s'enthousiasme pour le mouvement antinucléaire naissant et les grandes manifestations de la fin des années 70. Ce second épisode aurait pu être une suite de cette histoire, relativement factuelle, sur la lutte contre Superphénix. La parole aurait été exclusivement donnée à Georges David, militant antinucléaire qui habite juste à côté de Superphénix et qui en connaît un sacré rayon. Mais parce que son discours se rapproche beaucoup de celui d'Yves François, et que c'est chouette d'entendre des voix moins écoutées, la parole sera également donnée à sa compagne, Danielle David. Ce n'est pas ce qu'avaient prévu les enregistreureuses à ce moment-là, mais le micro, curieux et autonome, s'est instinctivement tourné vers la personne qui lui servait discrètement du café et lui ramenait du sucre. Voici donc un méli-mélo de ce qu'il a choisi de capturer sur sa carte mémoire. D'abord, des mots de Georges pour rapidement resituer le contexte historique, puis ceux de Danielle, une militante, mère, féministe, en somme bien plus qu'une épouse de militant.
Arrivé ici, j'ai commencé par rénover cette maison. Donc j'étais très pris par le...
C'était la maison de mes parents.
Voilà, donc je rénovais et puis un jour on a appris qu'il y avait une réunion d'information sur Malville et on y est allé. Donc c'était chez Maurice François et ça a été pour moi le point de départ de mon implication dans l'opposition à Superphénix. Et là, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça, ça a été le point de départ. Et souvent, il y a eu beaucoup de réunions ici, parce qu'on n'avait pas de lieu solide. C'était un peu au hasard Balthazar. Donc, en gros, c'était souvent ici, parce que c'était un peu l'endroit où se décidaient un certain nombre de choses. Ici en 74, quand ils ont commencé à faire les terrassements. Ils ont fait les piquetages de repérage de la zone. D'ailleurs, la première action, ça a été une action au niveau des piquetages, puisqu'on avait On avait enlevé les piquetages pour embêter
les
marquages au sol. Et ça date de 1974. Au moment de la manif de Buget, j'étais parti en vacances avec un numéro de La Gueule Ouverte où on voyait un dessin de Reiser avec un bonhomme qui partait, qui avait dans son sac une baguette de pain et puis une touffe de poireaux, plusieurs poireaux qui étaient dans son sac. Puis je ne me souviens plus de la légende, mais il faisait allusion justement aux luttes antinucléaires qui commençaient à démarrer.
Bon, puis le gros scandale de l'époque, c'est que les militants s'étaient baignés nus dans la rivière, et ça, c'est resté...
Non, mais ne mélange pas.
Si, ça a été.
C'est après.
C'était au niveau de Buget.
Ah, non, c'était les seins nus, oui.
Ça avait frappé les esprits, oui. C'était le début, là.
Ça avait frappé les esprits. Oui, donc c'est vrai qu'à l'époque, oui.
Je m'en souviens, alors quand j'étais pas militante, je savais pas ce qui nous attendait, je comprenais pas ce qui se passait là-bas. Parce qu'avec mon père, on voyait un gros machin qui montait dans le ciel, ce parallépipède, parce que Buget 1, c'était une graphite gaz. C'était pas du tout le même système que les autres. Et personne savait ce qu'il y avait là. On voyait ces trucs. Mais c'était marrant. Il y avait une passivité devant ce qui se faisait. Bon, on sait pas.
Le Monde, 19 juillet 1976.
Grenoble. Le site de Malville dans l'Isère, où doit être construit le surgénérateur Superphénix, est certainement l'un des endroits les mieux gardés de la région Rhône-Alpes. Impossible d'approcher à moins d'un kilomètre. CRS et gendarmes interdisent l'accès des routes, qui y conduisent à tout véhicule et à toute personne étrangère à la région. Il protège un champ de 150 hectares, entouré d'une clôture électrifiée, derrière laquelle a été installée des fils de fer barbelés.
« Ce terrain appartient à l'EDF »,
déclare le préfet de l'Isère, Monsieur René Janin.
« J'ai pour mission de faire respecter la propriété privée et publique. Plus jamais les militants antinucléaires ne franchiront les grilles de la future centrale. »
Le préfet a pris cette affaire personnellement en main. Il précise à propos des graves incidents qui se sont produits le 10 juillet.
« On prévient, puis on nettoie. » Il y a eu 13 blessés parmi les forces de l'ordre. Les militants antinucléaires ne sont donc pas des non-violents.
Le préfet de l'Isère entend d'autre part faire procéder à des contrôles d'identité sur les routes de la région, estimant
anormal
la présence de Suisses, d'Allemands et d'Italiens lors des précédentes manifestations.
Il y a,
précise M. René Janin,
une certaine limite à l'hospitalité.
Depuis une semaine, le mouvement de protestation contre l'installation de Superphénix à Crémalville s'est profondément modifié. Fini l'inorganisation des premiers jours. La première fête avait eu lieu le 4 juillet, qui découragea nombre de militants. Tout d'abord dispersés dans une dizaine de
campings sauvages,
puis délogés à coups de matraque du camp de Mépieux, les écologistes ont progressivement
investi
les villages de la région. Une centaine d'entre eux logent aujourd'hui dans les fermes et participent aux travaux des champs. D'autres ont trouvé un emploi dans des ateliers. Enfin, les nouveaux venus se sont installés sur des champs prêtés à proximité des villages.
À l'intérieur, une espèce de poche où il y avait des militants qui étaient là en permanence, et qui avaient en face les CRS, hein, qui faisaient un rang. Et à l'extérieur, il y a tout un champ qui avait été prêté par des agriculteurs sur lequel se sont installés les manifestants. On avait acheté un vieux car. Un vieux car qui était au bout du rouleau, qui avait été acheté à Annecy. Il a été acheté à Annecy, il a été mis sur le terrain et qui nous a servi le PC. Pendant 15 jours, les membres du bureau s'étaient installés dans ce car et faisaient les communiqués de presse. C'est le bazar. Ce car, quand il y a eu l'intervention de la police, il a été embarqué à Grenoble. Est probablement vendu au domaine. Bon, il ne valait plus rien. Hein. Le moteur, il était tout juste bon à faire 100 km, c'est-à-dire d'Annecy jusqu'à Malville, et après, il était bon à la casse. Hein. Le camping en question, en 76, c'était une zone céréalière. Donc le blé venait d'être coupé.
Il y avait la canicule.
Il restait de la paille. Et à l'époque, 76, il faut savoir qu'en 76, il y a eu une canicule aussi importante, enfin un peu moins importante, mais quand même très importante pour l'époque.
C'était très sec.
Très très sec. Et les CRS, en lançant des grenades fumigènes sur les manifestants qui étaient en face, ont mis le feu au terrain.
À la
paille. Et les manifestants s'y sont mis tous, et puis on a réussi à éteindre l'incendie. Et alors, il y a une anecdote qui est assez intéressante, c'est que dans la mesure où on avait quand même brûlé une partie des récoltes, je ne me souviens plus exactement des détails, il y avait notamment de la paille, ou je ne sais pas, qui n'avait pas été récoltée, je ne sais plus. Et pour ne pas entretenir le discours qui aurait été développé du côté pro-nucléaire, le discours, oui, ils nous ont brûlé des récoltes, etc., les paysans du Larzac ont proposé d'envoyer tout un char de bottes de foin. Et il y a un char du Larzac qui est venu apporter un char de bottes de foin au profit de la personne qui a vu une partie de sa récolte brûler. C'était symbolique, mais ça a été...
Ça a été important, je pense.
Ça a été important.
Moi, j'y allais moins que lui, hein, parce qu'il y avait quand même à gérer ici. Puis je ne sais plus, on avait peut-être du monde, je ne sais plus à l'époque.
Oui, puis il y a des gens qui venaient dormir ici.
Oui, c'était compliqué. On avait sûrement du monde ou des copains, je ne sais pas. Mmh. Alors ça devient... c'est un peu loin. Il y avait toujours des gens qui déboulaient ici, qui déboulaient à midi pour manger aussi, qu'on n'avait pas vu avant. Donc c'était pas évident à gérer. Moi, j'avoue que je n'ai pas trop aimé. C'était
compliqué.
Les militants, c'est des mentalités parfois assez particulières. Et puis des gens qui arrivaient, bon, qui étaient dans les têtes pensantes, qui arrivaient à midi moins quart, 11h30, bon, ben, fatalement, ils mangeaient, mais bon, on ne savait pas qu'ils allaient être là. Et puis, c'est vrai, ça. Mmh. Hein. Et bon, moi, j'avoue que j'ai trouvé ça pas respectueux des gens. Je ne l'aurais pas fait à d'autres. Donc,
attends, ça restait marginal quand même. Hein.
Oh, c'était assez systématique.
J'ai
vécu difficilement.
T'en avais à l'inverse qui arrivait ici, je pense à Jean-Michel Asselin quand il était parti dans le pré, il a fait ramasser une salade. En fait, il nous avait fait une salade superbe.
Oui, non, mais il y avait des
côtés bien. Avec toutes les herbes qu'il avait ramassées, il connaissait très bien en plantes. Il nous avait ramené toute une série d'herbes. On avait fait une super salade, rien qu'avec des herbes ramassées dans le pré.
Et il ne voyait pas les choses de la même façon. Il était dans la décision, dans la stratégie, dans la planification. Moi, pas. Donc, moi, j'étais dans le quotidien, plus. Donc, c'était deux mondes complémentaires et différents, on va dire. Et donc, c'était pas évident. Et puis, il y a aussi des choses... la coupure avec les voisins aussi, les populations, c'était pas évident non plus, parce que ça a été une marginalisation, hein. C'est sûr, le fait de s'engager, et puis d'être avec plein de gens, donc ils le vivaient curieusement aussi. Bon, il y avait un côté très très sympa, très très sympa, il y avait des gens très très bien, et puis il y avait d'autres plus opportunistes, on va dire. C'était comme la société, hein. Voilà, mais comment dire, à vivre au jour le jour sur des jours et des jours, c'est pas forcément évident. Mais bon, je pense que quand on est dans la décision, on voit plus le côté exaltant, le côté motivant, donc on voit pas les autres aspects, on les voit beaucoup moins. Donc on vivait pas la même chose tous les deux. C'était plus les femmes quand même qui faisaient la bouffe, il y avait des hommes aussi quand même, si. Mais c'était plus les hommes qui planifiaient, qui organisaient, bon, avec quelques exceptions. Mais sinon, il n'y en avait pas tant que ça.
Oui, c'est vrai.
Tant que ça.
Surtout masculin.
Voilà.
Le monde militant était surtout masculin.
68, ça a été très particulier. Parce que, et on n'était pas loin de ça, 68 à cette époque. Et la libération des mœurs, c'est vrai que tout le monde la voulait, les garçons comme les filles. Mais maintenant, on commence à pouvoir parler de choses qui ne se sont jamais dites. C'est que après, il y a eu une pression sur les filles. Si elles n'étaient pas consentantes par rapport aux garçons, on disait « mais toi, t'es coincée, t'es frigide, t'es ceci, t'es cela ». Donc il y avait une pression à être toujours accueillante, satisfaire. Et ça a paru comme naturel. Et je pense que finalement, ça ne s'est pas dit. Et maintenant, on a mis tout. Voilà. Mais je pense qu'il a fallu des décennies pour que ça sorte. Le féminisme, il est, il est, comment dire, on a d'abord voulu la libération parce qu'on était dans une société très oppressante. Enfin, c'est vrai, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, il y avait des principes, c'était rigide. Bon, vous imaginez sûrement pas dans quelle société on était. C'est vrai qu'on voulait en sortir, c'était normal. Mais je pense que ça s'est fait dans la démesure. Enfin, pour les filles, pour les garçons, ça a été sûrement très bien. Mais je pense que pour les filles, ça a été très bien. Et en même temps, non. En même temps, il y a eu un manque de respect des femmes, je pense. Elles étaient des objets sexuels évidents. Ils n'avaient pas le droit d'ouvrir le bec par rapport à ça.
Alors, une autre particularité du monde militant de l'époque, je parle par rapport au mouvement antinucléaire, c'est que c'était essentiellement des jeunes. Alors qu'aujourd'hui, les militants du nucléaire, c'est tout des, je le disais l'autre jour, des vieux croulants comme moi, ou comme Joël, ou comme Alain, ou comme les membres de EZN. Et on désespère.
Non, ça c'est fatigant.
Ouais. On désespère de voir, ouais, de voir des jeunes. Et voilà. Mais je pense que là encore, il faut rattacher ça à 68. 68, c'était des jeunes. Et les premières années 70, c'était la. C'est encore ces jeunes qui étaient sortis de 68 ou habitant en province, mais ayant eu écho de 68, qui se sont trouvés là, à Malville et ailleurs.
Ah oui, ben c'est net. Quand on voit les photos, c'est des hippies.
Yeah, voilà. C'est des hippies, des cheveux longs.
C'était... Bon, on était dans cette époque-là, mais c'était chouette. Hein.
C'était pareil aux États-Unis. Hein. C'était... Le mouvement hippie, c'était des jeunes. Et après, il y a eu un grand creux. Bon, maintenant avec vous, ça va peut-être repartir, j'espère. Enfin, les jeunes qui se mobilisent pour l'environnement de manière générale.
Nos enfants ne sont pas des militants. Alors peut-être qu'ils ont vu le côté peut-être... du quotidien, du militant, Georges a beaucoup milité, il est passé quasiment à mi-temps pendant des décennies.
Peut-être plus, maintenant.
Oui, donc par rapport à la famille, c'est pas neutre, parce que quand on a investi à plus de mi-temps pour autre chose sans gagner d'argent, ben, la famille, c'est pas la même vie. Il ne rentre pas autant d'argent, il n'y a pas autant de disponibilité en temps. Donc eux, ils ont vécu tout ça. Peut-être que ça ne leur donne pas envie d'être militant. Bon, les femmes qu'ils ont aussi ne sont pas du tout prêtes à accepter ça, je pense. C'est pas simple. Je rajouterais quelque chose de très important, et ça, ils ne nous l'ont pas dit tout de suite. Quand ils prenaient le ramassage scolaire pour aller au lycée, parce qu'ils allaient sur Belay, ben, ils se faisaient traiter de fils de l'écolo. Et c'était pas gentil. Hein. Franchement, c'était assez méprisant. On les a vus plusieurs fois arriver en pleurant. Enfin, on a été très, très marqués. Eux ont été encore peut-être plus marqués que nous. Parce qu'ils étaient directement au contact des enfants, des chasseurs, des agriculteurs, qui devaient en entendre des vertes et des pas mûres sur nous dans leur maison. Et ils étaient au premier rang pour ramasser. Donc je pense que ça les a aussi pas mal mis en retrait.
Oui, ça a dû jouer, sûrement.
Ah oui, ils nous l'ont dit après l'adolescence. on en aurait presque chialé. Hein. C'était dur. Très dur.
Sa place se tend pâle, y a de la casse, son sein s'installe, il tabasse, on se cale, il nous nasse tous, râle, mais ça se passe cavale, il nous chasse des voiles, une farce bancale, pleine de crasse cavale, et l'audace du scandale.
Influe sur le goût.
Avec du levain ?
Oui.
Ouais,
et moi, j'ai créé un levain depuis
plusieurs mois, et là, j'ai un levain qui a l'acidité qui
est
très bien.
Oh, tiens, ouais. Vous pouvez manger, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien.
Oh là là, trop bien.
C'est bon, voilà.
La
prochaine fois, si vous revenez, vous rentrez là et vous garez là.
Hein. Oui, hein?
Pas de problème. Allez, bon retour et puis bon courage.
Enregistrement réalisé pendant l'été 2020. Merci à Daniel et à Georges pour leur mou et leur raisin au goût d'été. Merci aux copains d'enregistrement et de montage. Et vive les micros libres.
Et maintenant, un son. Canaille contre la flicaille. Les frissons, fusillent les foules, effacent les fusions, et furieux des farces, ils finissent le flou. Flics de flotte qui fracassent les faces, ficelle les frères, ils fichent les frissons, fusillent les foules, effacent les fusions, et furieux des farces, ils finissent le flou. Tassent des heures à l'affût du moindre feu, ils nassent nos cœurs, petites miettes de gens curieux, ne rêvent pas d'ailleurs que du crachat dans leurs yeux. Au service d'un modèle mortifère, complice d'un état autoritaire, la justice corrompue, elle est la merde, la police et ses potes les militaires. Au service d'un modèle mortifère, complice d'un état autoritaire, la justice corrompue, elle est la merde, la police.
c'est des boîtes les militaires.
Mais cette farce, il faut l'éteindre, car ces flics font fausse route. D'un copain, n'a rien à craindre.
On est là, croûte après croûte.
Nous en face, on peut s'étreindre. Leur flashball,
on les rejoue.
Et si notre monde est à repeindre,
notre amour est la clé de voûte.
Je suis une,
nous sommes deux,
de plus,
et ça fait quatre.
Dans nos têtes, on est nombreux.
Pour le sauvage, on va se battre.
Leurs yeux vitreux, on les perce
avec nos bouilles de canaille.
Si leur brouille, nous disperse. Garde à vue la ficaille au cerf. Fils d'un modèle mortifère, complice d'un état autoritaire.
La justice
corrompue, elle est la mère
de la police.
Et tes potes, les militaires
au cerf.
Fils d'un modèle mortifère,
complice
d'un état autoritaire.
La justice corrompue, elle est la mère de la police. Et tes potes, les militaires.
Casse-toi, ta tronche de flic, pas besoin.
Crétin,
toi qui te la pisse, dit gardien.
Clan.
Un vieux machiste en déclin,
car ceux dont on est port le devient.
Ça y est, vous en avez plein les oreilles? Ensemble, on a suivi un micro qui vagabonde à la rencontre d'Yves François, de Georges et de Daniel. On est allé dans le Bugey et on a remonté le temps 50 ans en arrière. On a fait exister leurs paroles et leurs mémoires. On a tissé leur récit de nos voix, de nos instrus et de nos chants. Parce que leur lutte, c'est aussi la nôtre. On veut s'inscrire dans une histoire commune, trop souvent oubliée, apprendre d'elle, faire autrement quand il le faut, mais avec la même détermination. On veut dire l'actualité du combat antinucléaire, son intersection avec les luttes anticapitalistes, décoloniales, féministes, en fabriquant des imaginaires à partir de nos tremblements, de nos colères, de nos doutes, de nos idées et de nos rêves. C'était le Palchi, à très vite. Parce qu'on a encore plein de trucs à dire.
À toi, qui suscite dans mes tripes des vagues d'incendie parasite, toi,
toi,
dont la simple vue m'agresse et m'agite, me déboussole, me fait trembler et sentir toute petite, toi,
toi,
le keuf dont la viriliste conduite m'invite à prendre la fuite, quitte à devenir poète, bandit, pirate ou même ermite, je ne serai pas hypocrite, une sale envie de dynamite dans ta face m'habite. Je sais, c'est insolite, mais lorsque tu débites ton interrogatoire de chien bien dressé, sadique, l'absurdité de ta fonction me semble sans limite. Te sens-tu comme je te sens, aussi illégitime qu'un gardien de prison ou qu'un président? Toi et ta clique, vous n'êtes qu'une foule de serviles pantins armés par les caprices d'hommes encravatés, bouffis d'indécence et de mesquinerie décomplexée. Et puis merde, c'est quoi ce trafic?
Depuis quand
est-il illicite de marcher sans justificatif sur la voie publique?
Depuis quand
nos chiens sont-ils devenus les seules cachettes anti-flics? C'est quoi le plan? Faire d'un virus le prétexte ultime pour nous faire taire et criminaliser les rêves autres que celui de s'acheter le smartphone dernier cri. Dick, je le serai tant que la liberté sera traitée comme une lubie suspecte et démente. Tu peux me croire, ta présence ne protège rien ni personne. Il te ment, elle est juste oppressante.
Elle est juste oppressante.
Oppressante, 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 oppressante.
Il te ment.
Oppressante. Moi, pour t'effacer, j'inventerai dans mes cahiers des gardiens de la paix en forme de montgolfière géante. On n'aura qu'à tous te monter dedans et nous laisser suspendre par la musique du vent. Et nous laisser suspendre par la musique du vent. Décembre 2020,
décembre 2020,
des atomes et des keufs,
des atomes et des keufs.
Fréquence Paris pluriel.
Fréquence Paris pluriel.